Nous voulons évoquer le nom du Seigneur. Ô Dieu, nous sommes conscients que nous arrivons déjà au dernier moment, que nous passons ensemble par ta grâce. Nous te bénissons de ce que tu as été pour nous jusqu'à ce jour. Nous te remercions de tout ce que tu as fait pour les uns et pour les autres. Tu as préservé ce camp. Ta parole nous dit que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Et nous voulons te demander que les uns et les autres, nous puissions expérimenter l'authenticité de cette vérité et que ces dernières heures soient des heures qui valent mieux que 1000 alliances et que nous soyons enrichis de ta bénédiction à laquelle tu n'ajouteras aucun chagrin et que les uns et les autres nous puissions repartir dans la certitude que la victoire nous est assurée par Jésus, notre Sauveur, devenu notre Seigneur, et remplissant maintenant notre vie de son amour. Oh, que tu sois notre bien-aimé, le bien-aimé de toutes nos heures, de toutes nos circonstances, et que nous sachions aimer de nous puissions vaincre et triompher. Oins nos lèvres, remplis nos cœurs, captive nos pensées, afin que ce que tu voulais nous dire ce soir, tu puisses nous le communiquer sans réserve pour ta seule gloire. Amen. Mes amis, je n'ai pas besoin de vous dire combien je vous aime. Et je voudrais que, individuellement, vous puissiez vous sentir aimé, non pas de mon cœur, mais de celui qui habite dans mon cœur, le Seigneur Jésus. Aimé de cet amour qui comprend vos besoins, qui vous voit dans vos circonstances. Aimé de cet amour qui souffre avec vous dans vos souffrances. Aimé de cet amour qui se réjouit avec vous de vos espérances. C'est cela le corps du Christ. Être rendu participant d'un seul corps. Arriver à avoir un même sentiment, une même pensée. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, dans un monde où vous ne voyez que la division. Division dans les foyers, division dans les communautés, division dans la société. On nous parle constamment de cette lutte des classes. Avoir enfin la paix avec Dieu, pour pouvoir vivre en paix entre nous, et être de ceux qui apportent la paix. Vous allez quitter ce lieu. Eh bien, je voudrais que vous receviez cette parole. Combien sont beaux les pieds de ceux qui apportent la paix. Sur les montagnes, combien sont beaux les pieds de ceux qui apportent de la nouvelle. Si vous avez entendu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, puissiez-vous aller la transmettre de lieu en lieu. Ayez toujours à vos pieds ces chaussures de la paix, le zèle de l'Évangile qui aime à apporter la paix. Alors vous serez des bienheureux et vous mettrez en pratique les vertus. vertu chrétienne. Car je pense que vous l'avez compris, quand nous parlons de ces vertus chrétiennes, qu'il s'agisse des vertus dites théologales, c'est-à-dire de celles qui ont Dieu pour objet, et on en compte trois, la foi, l'espérance et l'amour, ou qu'il s'agisse des vertus qu'on appelle cardinales, qui résument toutes les vertus morales et qui ont pour objet notre prochain. Eh bien, que nous parlions des vertus théologales ou des vertus morales résumées dans ces quatre vertus que je vous ai citées, la force, la justice, la prudence et la tempérance, eh bien, toutes ces vertus nous ramènent à qui ? À Jésus. Car en Jésus, elles étaient constamment en activité, mises en pratique. Il vivait dans cette dépendance complète du Père, de foi en foi, s'en remettant pour toute chose en tant qu'homme à son Père, puisque, comme j'ai mal souligné souvent, il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père, donc il écoutait le Père, il prenait le temps d'écouter le Père, il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Donc il vivait dans cette contemplation, son seul regard était sur son Père en tant qu'homme, pour nous apprendre à nous comment nous avions à vivre, le secret de la bénédiction. Alors vous voyez en lui cette foi agissante, cette espérance vivante, cet amour consommé, et puis aussi cette force, cette puissance. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et une force incroyable, car il est dit qu'il était tellement occupé dans son ministère qu'il n'avait pas même le temps de manger, à un tel point que ses proches disaient de lui, il est fou, il est insensé, parce qu'il était demandé partout, et où dormait-il? La nuit, il était en prière sur la montagne, longtemps avant le jour, on le trouvait déjà en prière, et on venait lui dire, tous te cherchent, tous te cherchent. Et c'est à ces multitudes qu'il aimait se donner, s'arrêtant même pour parler à quelqu'un qui n'allait pas le suivre, qui le questionnait. Je vous ai parlé du jeune homme riche hier soir. Le Seigneur aurait pu dire, c'est pas la peine que je m'arrête pour cet homme, il ne va pas me suivre, malgré tout ce que je lui dirai. Cet homme qui lui dit, mais Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui a dit, tu connais les commandements si tu veux faire quelque chose. Mais j'ai fait tout ça, j'ai gardé tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? C'est ainsi que nous terminions hier soir. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, une chose te manque, va. Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, puis viens, suis-moi. Et vous savez que le jeune homme n'a pas suivi Jésus. Ayant entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens et son cœur était où ? À ses biens. Il a préféré ses biens à ce merveilleux trésor qu'il aurait trouvé en Jésus s'il l'avait suivi. Mais ce qui me frappe, et je le dis souvent, le souvenir que ce jeune homme a eu de Jésus, c'était un regard d'amour. Il l'a enveloppé d'un regard d'amour, Jésus l'ayant regardé lui-même. Il l'aima même en sachant qu'il n'allait pas le suivre. Eh bien, nous autres aussi, si nous voulons mettre en pratique les vertus chrétiennes, nous devons regarder avec amour les gens auxquels on a témoigné et qui ne reçoivent pas notre témoignage, qui s'en vont, comme s'ils n'avaient rien entendu. Nous devons leur laisser cette expression d'un amour intense, peut-être d'un amour douloureux, le regard de Jésus. Et qui vous dit qu'un jour, étant seul, ayant peut-être perdu ses biens, car vous savez, les fortunes disparaissent bien rapidement, ce jeune homme, peut-être devenu déjà à un certain âge, alors que tout le monde se détournait de lui, parce que tant qu'on a des richesses, on a beaucoup d'amis. Mais le jour où vous devenez pauvre, vous n'êtes plus intéressant pour certains. Et quand les cœurs se ferment, et quand vous êtes tout seul, alors on pense à ce quelqu'un qui un jour nous avait parlé, à ce quelqu'un qui un jour nous avait regardé avec amour, à ce quelqu'un qu'on avait osé aborder et qui s'était arrêté comme s'il n'avait que cela à faire et qu'on n'a pas suivi. Et tout à coup, ce regard d'amour entre dans le cœur d'un homme peut-être demi-pauvre et il a pu invoquer le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dit l'Écriture. Il n'a pas besoin de pasteur, il n'a pas besoin de prêtre, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il l'avait rencontré une fois. Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas croire que le jeune homme riche, qui n'a pas suivi le Seigneur, soit perdu. Parce que je crois que l'amour de Jésus a été assez puissant pour faire son œuvre dans son cœur. Mais ce qu'il a perdu, ce jeune homme, c'est des années de bonheur et de joie qu'il aurait pu avoir en suivant Jésus. Car quand vous arrivez à la fin de votre vie et que tout à coup vous voyez qu'il n'y a plus que le vide et le trou, comme le disait mon frère, la faute, hein, quelle déception. On voudrait recommencer. C'est le salut à la 11e heure. Mais vous ne pouvez plus recommencer. Alors, je ne dis pas que vous êtes perdu, si vous vous tournez, même dans ce dernier moment vers le Seigneur, vous êtes sauvé. Mais il n'y a aucune œuvre qui a été faite pour lui. Vous avez perdu votre vie. Le Seigneur, dans sa grâce, vous sauve. Et c'est pourquoi je voudrais, mes bien-aimés, que dès aujourd'hui, vous soyez entièrement pour Jésus, et que votre cœur, en ce soir du 9 juillet 1981, vous le donniez au Seigneur. Car, si maintenant, comme l'a dit mon frère, vous vous laissez saisir par lui, si vous dites, Seigneur, oui, maintenant, je m'abandonne, saisis-moi, oui. Je me laisse saisir, je me laisse prendre par toi, bien lui fera de vous tout ce qu'il voudra. Et c'est lui qui réalisera en vous toutes ces vertus chrétiennes. Dans ce monde sans paix, vous apporterez la paix. Dans ce monde sans joie, vous serez des semeurs de joie. Dans ce monde sans bienveillance, vous serez des êtres bienveillants. Vous aurez des pensées positives pour les autres, au lieu d'être toujours négatifs et critiques. Vous cesserez de juger et vous apporterez l'amour dont ont besoin tant d'âmes qui se sentent mal aimées, qui se sentent solitaires. Par votre présence seule, vous apporterez l'atmosphère du ciel sur la terre, car la présence de Jésus dans un cœur, c'est déjà le ciel sur la terre. Eh bien, que nous soyons de ceux et qui, à l'instar de Jésus, comme Jésus, vivent de ces vertus, de cette force d'en haut, de cette prudence qui est la sagesse même du Père, de cette justice parfaite que l'on voit en Dieu. Vous vous rendez compte de la justice de Dieu. Il nous a créés. Hein. C'est vrai? Vous croyez que vous vous êtes né tout seul? Si je vous dis, voyez, cette montre, elle s'est faite toute seule. Qu'est-ce que vous direz? Non, monsieur Racine, il commence à déménager. Et vous auriez raison. Est-ce qu'elle s'est faite toute seule, cette montre? Non. Je vous dis que c'est un horloger qui l'a fait. Vous le croyez? Et vous l'avez vu l'horloger?
Non.
Mais Dieu, vous l'avez vu?
Non.
Mais la terre, tout ce que vous voyez ici, ça s'est fait tout seul? Non. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu le Créateur que vous croyez qu'il existe. Hein. Vous n'avez pas vu l'horloger et vous croyez pourtant qu'il y a un horloger qui a fait la montre. Alors ne dites pas, moi je ne crois qu'à ce que je vois, petit imbécile. Il y a une foule de choses que tu ne vois pas. Et pourtant, tu crois à ces choses. Est-ce que vous êtes de ceux qui ne croyaient que ce que vous aviez vu? Est-ce que vous êtes tous allés en France?
Non.
Vous l'avez vu, la France?
Non.
Alors ça n'existe pas. Vous n'avez pas vu. Ça n'existe pas, la France. Vous n'avez pas vu. Hein? Mais c'est pas comme ça pour raisonner. On vous a dit, des gens ont vu la France, des gens y sont allés, et ils témoignent. Hein. C'est comme ça. Il y a aussi un témoignage. Et nous croyons le témoignage. C'est ça la foi. Croire parce qu'il y a eu un témoignage. C'est ça la foi. Alors mes frères et sœurs, vous savez, je suis un vieux bonhomme, j'ai 50 ans. Un demi-siècle. Quant à l'âge de la grâce, l'autre âge, je ne vais pas vous le dire. Il y en a qui mettent 80, ça leur fait plaisir. Mais quant à l'âge de la grâce, j'ai 50 ans. Je me souviens toujours à Liège, vous savez où c'est Liège? C'est en Belgique, c'est une des grandes villes de Belgique. Vous savez ce que c'est la Belgique? C'est un pays, vous l'avez vu?
Non.
Ça n'existe pas. Alors je suis en train de vous mener en bateau, hein. Je vous raconte des histoires. Bien oui. Ah oui, mais il y a un Belge là-haut. Il me sauve, notre cher Jean. Bon, il témoigne que c'est vrai. Il est né là-bas, lui. C'est vrai, hein, t'es né là-bas. Alors, heureusement, hein, donc, vous voyez, il y a deux témoignages ici. Moi, j'y suis allé, lui, il y est né. Alors, sur la déposition de deux témoins, toute affaire est établie, vous n'avez plus rien à dire. Hein. C'est vrai. C'est ce que dit l'Écriture. Hein. Quand il y a deux témoins, on est sûr de cette parole. Eh bien, à Liège, je prêchais dans une grande église. Et puis, vers les soirs, enfin, c'était toute une convention, et je me souviens toujours, il y avait un bel homme, un beau vieillard, avec une grande barbe blanche, comme ça, bien taillée, bien soignée, puis il avait des yeux très doux, des yeux bleus. Alors, après ma prédication, il est venu vers moi, et il m'a dit, « Oh, cher monsieur, vous savez, moi j'ai 6 ans. Soyez ce vieillard avec mon grand-père. Moi j'ai 6 ans. Il n'était pas fou. Il avait 6 ans de vie avec Jésus. Alors il comptait son âge, l'âge de la grâce, qui ne correspond pas toujours à l'âge de la nature. Heureux êtes-vous si vous avez 6 ans de vie avec le Seigneur. Eh bien, moi, par la grâce de Dieu, j'en ai 5 ans. Et je ne les regrette pas. Mais pour avoir 50 ans de vie avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que j'attende d'avoir 25 ans pour me donner au Seigneur ou de me laisser saisir par lui? Non. Il m'a saisi quand j'étais encore jeune. Et il voudrait vous saisir quand vous êtes encore jeune, quand vous avez encore des années, peut-être à vivre, pour que ces années puisse rapporter pour le Seigneur. C'est cela qu'il voudrait. Ne voudriez-vous pas que le Seigneur puisse diriger vos années, remplir vos années, si ce ne sont pas des années, disons, remplir les journées qu'il vous reste à vivre. Parce que vous savez, on ne sait pas combien de jours il nous reste à vivre. On est en pleine forme, peut-être, vous êtes jeune, mais vous savez très bien que quand on va dans un cimetière, on lit sur les tombes des dates qui nous montrent qu'il y a des tout jeunes qui meurent. Il y a même des tout petits, je crois, il y a des enfants qui meurent. Alors, nous ne pouvons pas nous promettre de longues années. Bien Seigneur Jésus, maintenant j'ai compris, je ne veux pas perdre ma vie. Je veux vivre pour toi dès aujourd'hui. Ne voulons-nous pas le faire? S'il n'y a pas encore quelqu'un qui pourra dire, bien, ce soir du 9 juillet, c'est le soir où j'ai dans mon cœur, dis au Seigneur, prends ma vie, prends la, je te la laisse. Mais vous avez peur, qu'est-ce qu'il en fera? Il est si doux, Seigneur. Si vous saviez ce qu'il vous prépare, si vous saviez ce qu'il vous réserve, si vous saviez comme vous pourrez marcher en toute sécurité. Mais je ne voudrais pas assombrir certaines personnes ici qui se disent, moi, j'ai tel âge selon la nature, il n'y a que quelques mois ou quelques années seulement que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai perdu un très grand nombre d'années. Et vous avez une tristesse. Eh bien, à vous qui avez cette tristesse, parce que vous vous dites, j'ai perdu tant d'années de ma vie. J'ai une promesse pour vous, et une promesse qui est merveilleuse, et que je tire de la parole, cette parole prophétique. Dieu vous dit ce soir, si vous avez ce sentiment de tristesse et que vous dites, Seigneur, tu peux faire quelque chose pour moi à cause de toutes mes années perdues, je vous redonnerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, l'ailier et la locuste. Je vous redonnerai les années. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Parce que chaque jour, vécu réellement, totalement avec le Seigneur, peut vous valoir des années. C'est ça qui est merveilleux. En peu de jours, mais vraiment consacré au Seigneur, vous pouvez racheter des années. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Avec le Seigneur, il est vraiment le réparateur de toutes les brèches que Satan a fait dans vos vies. Vous avez été loin de lui, vous avez souffert loin de lui pendant 10 ans, peut-être 15 ans, peu importe. Si aujourd'hui vous dites, Seigneur, maintenant je commence avec toi, c'est l'éternité qui va compter pour vous. Et c'est merveilleux. Voilà le souverain médecin. Et en lui, toutes ces vertus dont nous vous avons parlé et dont vous parle l'Écriture étaient sans cesse en activité, et en lui, tout était bien balancé, bien contrôlé. Quand on voyait le Fils, on voyait le Père, c'est bon. Toutes les perfections du Père étaient dans le Fils. Et cette vie du Fils, c'est cette vie-là qu'il a voulu nous donner. Sa vie, Jésus n'a pas vécu pour lui, il l'a vécu pour qui? Pour nous. Et une fois qu'il l'eut totalement vécu, cette vie qui pouvait entrer dans le ciel sans passer par la mort, on le voit à la transfiguration, il aurait pu entrer directement dans la gloire. Quand il parle avec Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration, il est lui-même transfiguré et il n'avait plus qu'à entrer dans la gloire avec Moïse et Élie qui y était déjà. Mais il n'y aurait eu qu'un Jésus sur la terre, il n'y aurait eu qu'une vie de Jésus. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Cette vie parfaite qui devait entrer dans la gloire, il nous l'a donnée. Il est redescendu de la montagne. Il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé crucifier parce qu'il voulait nous donner cette vie-là. Il a voulu mourir avec notre vie à nous pour que ça en soit fini de nos péchés et de notre vie de péché. Il a pris notre vie et c'est pour ça qu'il est mort, parce que sans ça, il n'avait pas à mourir. S'il est mort, vous l'avez bien compris, c'est pour nos péchés qu'il est mort. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort. L'aiguillon de la mort, c'était le péché. Alors, si Jésus est mort, quels étaient ses péchés à lui? Il n'en avait pas, alors il ne devait pas mourir. De sorte que s'il est mort, c'est vraiment pour nos péchés. Nos péchés à nous ont été jugés dans la chair du Christ. C'est ce qu'il est dit dans Romains 8. Les péchés que nous avions commis dans la chair ont été jugés dans la chair d'un autre, dans la chair du Christ. C'est pourquoi c'est expié. Et voilà la justice de Dieu. Comme vous dites, mais puisque Dieu nous a créés, pourquoi est-ce qu'il a permis que nous soyons des pécheurs? Mais Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes des pécheurs. Il condamnera les hommes parce qu'étant devenus pécheurs, ils auront refusé la grâce qu'il leur accordait. Dieu a pris la responsabilité du péché et il est venu dans sa justice réconcilier les hommes pécheurs avec lui-même et ne vous demande pas de faire votre salut par vos efforts, il vous demande de l'accepter. Il est là. Il est là, votre salut. Votre salut, il est dans une personne, il est en Jésus. Votre salut, c'est Jésus. Et toutes les vertus chrétiennes sont en Jésus. Et si vous recevez Jésus, si vous laissez vivre Jésus en vous, eh bien tout cela sera manifesté dans votre vie sans que vous ayez besoin de vous tuer en de pénibles efforts qui ne vous mènent qu'au découragement et à la déception. Et j'espère que tous, vous avez bien compris le message. Il n'était pas question de vous exhorter à faire davantage et à faire mieux, mais il était question de vous dire, abandonnez-vous. Cessez vos luttes vaines, jetez-vous dans ses bras et laissez le Seigneur vous conduire, maintenant qu'il vous a saisi. Laissez-le continuer son œuvre. C'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui la poursuivra, c'est lui qui achèvera. Il achèvera le travail qu'il a commencé en vous, malgré tout. Eh bien, mes frères et sœurs, je vous ai dit que je vous donnerai ce soir, dans cette dernière partie, quelques expériences personnelles qui ont marqué ma vie, afin que vous soyez encouragés et que vous sachiez bien que vous n'avez pas devant vous un théoricien, mais quelqu'un qui a dû vivre la vie de tout le monde depuis son enfance, qui a connu lui aussi ses difficultés, même si j'avais reçu un excellent catéchisme, si j'avais entendu la prière et la lecture biblique tous les jours, faite par un père qui avait une connaissance profonde de la parole et qui enseignait dans son église, oui, tout en étant horloger, oui, mon père était horloger, il fabriquait des montres, oui. Eh bien, oui, tout en étant horloger, il avait un témoignage et il enseignait dans plusieurs communautés la parole de Dieu. Lui, il avait donné sa vie plus vite que moi. Savez-vous à quel âge il l'avait donné? À 9 ans. Eh bien, et il est mort à 80 ans. 9 ans. Et il avait donné sa vie au Seigneur. Mais aussi, il a épousé une femme qui aimait le Seigneur. Et chaque fois qu'ils étaient ensemble et qu'ils regardaient au Seigneur, ils ont demandé à Dieu qu'il leur donne un enfant. Et puis, ils avaient eu une fille d'abord, qui vit encore, ma sœur. Et ils désiraient un garçon. Alors ils ont prié. Et puis ils ont dit, si tu nous donnes un garçon, nous te consacrons pour qu'il soit vraiment pour toi. Puis ils ont été exaucés. Alors moi j'y suis pour rien si je suis dans le service du Seigneur. C'est l'exaucement des prières de mes parents. Mais je n'y ai pas été tout de suite comme ça. J'aimais le Seigneur dès mon enfance, c'est vrai. Mais j'étais comme le jeune homme riche. J'avais tellement de biens spirituels que j'étais pas tranquille. J'étais pas sûr d'avoir la vie éternelle. Pourtant, je connaissais l'Écriture. Je connaissais tous les versets bibliques qui nous disent que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand des vieux pasteurs venaient dans notre maison, parce que mon père exerçait beaucoup d'hospitalité, et qu'ils me voyaient, ils disaient, alors, mon petit Gaston, est-ce que Jésus est ton sauveur? Alors, qu'est-ce que je disais? Bien sûr, bien dit. Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Bien sûr. On n'avait pas fait grand-chose. Ce n'est pas une conviction profonde de péché, non. Tout le monde est pécheur. Bien sûr, j'étais aussi pécheur. Mais c'était théorique, tout cela. C'était pas profond dans mon cœur. C'était du catéchisme, c'était un disque. Et alors, je me souviens de ces moments d'angoisse, parce qu'on m'avait dit que le Seigneur allait revenir, et qu'il pouvait revenir de nuit, et qu'il pouvait venir d'un instant à l'autre, et qu'il enlèverait ceux qui croyaient. Et je me souviens des nuits où je ne dormais pas. J'allais avec, en chemise de nuit, jusqu'à la chambre de mes parents pour voir s'ils étaient encore dans leur rue, parce que j'avais peur que le Seigneur les ait pris et que moi, il m'ait laissé. Donc, je n'avais pas de certitude. Et c'est là, à l'âge de 13 ans et demi, que le Seigneur m'a vraiment convaincu de péché, non pas parce que il m'a montré tout le mal que j'avais pu faire, mais il m'a montré tout le bien que je n'avais pas fait et qui était des péchés, et puis surtout ce que j'étais capable de penser. Quand j'ai vu tout ce que je pouvais penser, je me suis dit, mais si le monde voyait ça, eh bien, j'aurais honte. Je voudrais être sans pied sous terre. Et là, je me suis vu perdu. Je n'étais plus pêcheur en peinture, mais j'étais un vrai pêcheur. Et alors, je me suis tourné vers le vrai sauveur. Il me manquait une chose. Pendant tout un temps, pendant des années, je suivais la loi, je suivais les enseignements bibliques, mais il me manquait cette certitude. J'étais trop riche de tant de biens spirituels, et il a fallu que le Seigneur me ruine, me montre ma misère, et que j'admette que c'était vrai. Je n'avais pas tué, mais je n'avais pas aimé. Je n'avais pas volé, mais je n'avais pas encore donné. J'étais égoïste. Je n'avais pas commis adultère, mais pour autant, je n'étais pas un saint. J'avais toutes sortes de pensées impures, et j'ai dû reconnaître que si tout cela se développait en moi, eh bien, je pourrais faire un jour un criminel, je pourrais faire un voleur, je pourrais faire un impudique. Et alors, j'ai vu que ce qui me perdait, c'était de garder ma nature. Alors j'ai dit, Seigneur, je renonce à moi. Et il m'a pris pour me donner sa vie. Et ensuite alors, quand il nous a pris comme cela, donc il y a 50 ans de cela, eh bien, quelles sont les expériences qu'il nous fait ? Depuis ce moment-là, c'était le 31 juillet, eh bien, depuis ce moment-là, je n'ai plus eu de doute quant à mon salut. Je savais une chose, j'étais avant un aveugle, comme le dit l'aveugle-né, mais maintenant, je vois. J'avais la certitude que j'étais sauvé, et que même si Satan mettait des doutes dans mon cœur, je savais que Satan, qu'est-ce qu'il est, par définition, c'est le Seigneur qui le dit, un menteur. Alors, quand un doute va venir dans votre cœur, vous savez de qui vient le doute ? De Satan. Alors, puisque Jésus dit que Satan est un menteur et le père du mensonge, vous n'allez pas le croire. On n'a pas besoin d'être troublé par un menteur. Nous croyons la parole de Dieu. Il est écrit. Et nous repoussons les doutes qui nous viennent de Satan. Donc, j'avais une certitude. La certitude que maintenant, j'avais un sauveur, mais que ce sauveur était mon Seigneur, et qu'il allait guider ma vie, qu'il allait diriger ma vie. Alors, comme je vous le disais l'autre fois, moi j'avais fait des plans, mais une des grandes choses que vous devez apprendre une fois que vous êtes sauvé, c'est que ce n'est pas à vous à faire les plans. Le Seigneur a des plans pour vous. Jusqu'à présent, vous avez conduit votre vie comme vous le vouliez. Et est-ce que vous trouvez que c'est une réussite ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce verset qui dit « Nous étions comme des brebis errantes, suivant chacune notre propre chemin, notre propre voie. » Eh bien, quand nous avons voulu suivre notre propre voie, faire notre volonté propre, est-ce que c'est une réussite ? Non. Nous le savons tous. Nous sommes dans des difficultés souvent parce que nous avons marché dans notre propre voie. Mais maintenant, le Seigneur est intervenu dans votre vie. Eh bien, faites-lui confiance. Et dites-vous, maintenant, c'est plus moi qui vais faire les plans. Seigneur, révèle-moi le plan que tu as pour moi. Est-ce que vous croyez que tu as un plan pour chacun de vous ? Et qu'il est déjà établi, c'est déjà tracé, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, dites, donne-moi la passion pour que tu me le révèles, jusqu'à ce que tu me le révèles, mais je ne ferai rien de moi-même, parce que si vous faites quelque chose de vous-même, vous serez tellement malheureux. J'ai reçu un téléphone ce soir qui a brisé mon cœur. Ma femme me dit, écoute, j'ai reçu un téléphone de France, une fille que plusieurs connaissent ici, qui est venue à nos camps. C'était notre infirmière diplômée de tous nos camps, Mahanaïm, enfin des de plusieurs camps, disons, elle s'appelle Francine. Et cette Francine, eh bien, comme toute jeune fille, elle était au Seigneur, je l'ai élevée au refuge à Nice, dans les vérités du christianisme. Elle a confessé le Seigneur et elle est, je le crois, réellement au Seigneur. Mais à un certain moment, quand on a dépassé la trentaine, puis qu'on voit que ces espèces de garçons chrétiens de nos églises qui vont chercher dans le monde alors qu'ils auraient des filles qui seraient des perles à l'intérieur de nos communautés, ils vont chercher ailleurs. Alors elle aussi, elle était infirmière, elle a vu quelqu'un, puis elle s'y est attachée, mais ce n'était quelqu'un qui n'était pas au Seigneur. Alors un jour, malgré que je l'avais bien mise en garde contre cette liaison, eh bien, elle m'a dit maintenant, elle m'a écrit, « Papy, je l'aime, mais il n'est pas au Seigneur. Mais je crois que le Seigneur peut le sauver. » Bien sûr qu'il peut sauver quelqu'un qui est possédé. Mais quand vous savez la vérité, est-ce que vous pouvez désobéir à la parole? C'est là que je dis, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La foi, c'est pas seulement croire au Seigneur Jésus et être sauvé. La foi, c'est l'ensemble des vérités chrétiennes. Est-ce que quand il viendra, il trouvera des hommes qui prennent encore au sérieux sa parole? Qu'est-ce qu'il est dit? Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Alors, j'accepte la demande d'un infidèle, et puis je demande à un pasteur de venir bénir mon mariage. Vous croyez que je pouvais le faire? Non. J'ai refusé. Ça me faisait de la peine. J'ai dit non. Je ne peux pas. Tu choisis quelqu'un que tu sais ne pas être au Seigneur, ne pas aimer le Seigneur. Quelle communion aurez-vous? Tu dis que tu l'amèneras. Il dit qu'il respecte tes idées. Mais ce ne sont pas des idées que tu as. Tu as quelqu'un. Si vous n'avez que des idées, bien sûr, c'est pas grand-chose. Mais j'espérais, ma Francine, que tu avais quelqu'un. Bon, elle s'est mariée il y a un mois. Je n'étais pas à son mariage. Une semaine plus tard, j'ai passé par là. Et je l'ai vu. J'ai aussi parlé à son mari. Et ce soir, elle téléphone désespérée à ma femme. Elle voulait m'atteindre. On doit l'opérer jeudi et on pense qu'elle a un cancer à l'estomac et qu'elle est perdue. Voilà ce que les médecins pensent. Notre chère Francine, alors elle sera opérée jeudi, je vous le dis pour vous, ceux qui la connaissent et ceux qui la connaissent pas. Vous voyez, un mois de mariage et puis c'est déjà l'ombre de la mort qui plane sur elle. Oh mes amis, quand nous connaissons la vérité, prenons Dieu au sérieux. J'ai compassion pour Francine et je sais que Dieu aura compassion d'elle. Mais vous ne pouvez pas tourner le dos à Dieu et être béni. Il y a des moments où il faut choisir. Je préfère Christ. Voilà ce qu'il faut dire. Et vous avez connu Florence Diébol, la sœur de Benoît, et elle a été campeuse ici. Hein. L'autre jour, c'est elle qui me conduisait à travers les rues de Paris. Je dis, écoute ma Florence, si un jeune homme haut placé te demandait en mariage, toi aussi qui désires fonder un foyer, puisque tes trois frères sont maintenant mariés, alors, qu'est-ce que tu ferais s'il n'était pas au Seigneur? Mais monsieur Racine, ça n'entre pas même en ligne de compte. Et je ne sortirai même pas avec quelqu'un qui m'invite, un homme ou un jeune homme non-croyant, qui m'invite à un restaurant, soi-disant parce que j'aurai l'occasion de lui parler. Non, parce que je sais trop bien comment sont les hommes. Hein? Ils vous invitent, mais qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Un non-chrétien, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Vous le savez très bien. Et alors vous commencez là. Oh, c'est pour l'évangéliser. Et vous commencez à sortir. La bande où l'évangélisation? C'est pour lui rendre témoignage. Et puis vous savez comment ça va. On vous offre de l'alcool, on vous offre ceci, on vous offre ça. Et puis, vous ne pouvez pas toujours dire non. Vous commencez à glisser. Et ça m'a fait du bien d'entendre cette jeune fille dire, mais ça n'entre pas dans ligne de compte. Et pourtant, elle s'occupe beaucoup des groupes bibliques universitaires, elle évangélise des jeunes, elle témoigne, mais elle n'entrera pas dans un chemin d'intimité quelconque avec quelqu'un mort. Quand il était vivant, elle n'a pas été au sépulcre. Quand il était vivant, elle a oint le Seigneur pour sa sépulture. Elle a devancé cela. Elle a oint un sauveur vivant. Gardez votre parfum pour un sauveur vivant. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Plus tard. Et Marie, dans sa communion, savait des choses que les autres disciples ne savaient pas. Elle a eu une attitude que les autres disciples n'ont pas vu, et on ne l'a pas compris, on l'a jugé, on a dit qu'elle avait fait une dépense folle, qu'on aurait pu mettre ses 300 deniers, qui était le prix du parfum, on aurait pu les donner à qui? Aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Les pauvres, vous les aurez juste en 1981, dans l'ère chrétienne, vous les aurez toujours, il y en a toujours des pauvres. Mais moi, je ne m'aurai pas toujours. Alors, comprenons cela. Eh oui, le Seigneur m'a fait comprendre que ce qui comptait, maintenant que je savais une chose, c'était mon Seigneur, que je vais cultiver ma communion. Et puis, j'ai passé à une autre expérience, celle de la prière. Ma vie de prière a été transformée. Je voudrais vous donner seulement un exemple. Quand on prie, on va à Dieu avec ses promesses. Et on arrive de plus en plus à ne plus rien demander pour soi, l'a demandé pour les autres. Comprenez-vous? Parce que Dieu s'occupe de nous. Occupe-toi de moi, dit le Seigneur, moi je m'occuperai de toi. Alors, on a beaucoup plus d'actions de grâce que de requêtes personnelles. Parce qu'il satisfait nos cœurs et il satisfait nos besoins, de sorte que nous rendons grâce pour toutes ces choses. Et alors, notre vie de prière, nous pouvons l'employer pour l'intercession, pour prier, pour la délivrance des autres. Quand nous pensons à une âme, notre pensée enveloppe cette âme et devient une prière. Et nous nous portons au trône de la grâce. Mais, évidemment, étant père et ayant 5 enfants, j'avais une petite fille. Et j'ai vécu profondément près de votre cœur, mon cher ami, et sa femme, monsieur et madame, oh, c'est Auger, hein, votre... Obé, pardon, je me trompe d'une lettre, mais il me pardonne. Alors, ma petite fille, qui avait 5 ans, qui s'appelait Marie-Lise Grasse, a subitement une appendicite jean-péritonite. Et elle faisait en même temps une varicelle. Et il ne fallait pas opérer dans cet état-là. Mais le chirurgien a quand même voulu opérer. Alors je me souviens toujours, j'allais partir pour Paris pour faire une mission de 18 jours à Paris. Et ma fille, quand on la sort de la salle d'opération, ils n'étaient pas très satisfaits. Alors j'ai voulu être là pour la veiller et... Dans la nuit, les reins se sont bloqués. Complètement. Blocage complet des reins, complication, elle devait mourir. Elle ne passera pas la nuit, m'a dit le médecin. Elle vous sera reprise avant le matin. Et vous savez, ses reins bloqués, elle enflait. Et c'était quelque chose de terrible. Et moi j'étais là. Père, à côté de mon enfant chéri, la dernière, on avait appelé la fille de la libération pour certaines raisons. Et vous pourrez lui parler vous-même de cela, parce qu'elle sera là au camp Mahanaïm, Dieu voulant. Elle a 32 ans maintenant. Eh bien, cette petite, qui avait des aiguilles dans les veines, je lui parlais. Elle me dit, papa, j'ai mal, mais je pense au clou de Jésus, ça devait faire encore plus mal que cette petite fille de 5 ans disait dans la nuit. Et puis, ça devenait tellement terrible, ces souffrances, que j'ai dit au Seigneur, c'est pas possible. Je crois à la guérison par la foi. Je l'ai expérimenté plusieurs fois, mais je ne raconte pas ces choses-là. C'est des choses qui sont trop sacrées. Et on n'en fait pas un commerce, une pratique. Mais dans ma détresse, j'étais à genoux et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas t'ordonner de guérir mon enfant parce que je suis trop concerné, là. Parce que je voudrais la garder. Mais si toi, tu as la pensée de la reprendre, c'est une autre affaire. Alors, ma prière est devenue si intense, et certainement qu'il y avait de la sueur aussi sur mon front, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur Jésus, je dois prêcher aux autres. C'est plus possible de voir cette souffrance, ou tu la reprends maintenant, ou tu la guéris. Sinon, Seigneur, j'abandonne mon ministre. J'ai mis mon ministre. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'irai pas faire les 18 conférences à Paris qui étaient déjà annoncées partout, etc. Bon. C'était une question, c'était tout ou rien. Seigneur, si tu veux que je dise qu'on peut se confier en toi, là, la souffrance dépasse la mesure. Ce n'est pas ma souffrance à moi, c'est la souffrance de cet enfant. C'est plus possible. Ou bien, tu la reprends près de toi et je dirai, l'Éternel avait donné, l'Éternel l'a béni, je me coupe et j'adore. Ou bien, tu la délivres, mais tu interviens. Sinon, Seigneur, je ne peux plus prêcher. Je n'ai plus autorité pour prêcher et dire que c'est vrai que Dieu est un Dieu qui répond. Mais je n'ai pas demandé guérilla. Comprenez-vous? J'ai été soumis à sa volonté. Eh bien, au moment où j'ai dit, sinon, Seigneur, ce ministère que tu m'as donné en 1936, quand tu m'as appelé, eh bien, j'abandonne. Vous savez ce qu'elle a crié, la petite? Papa, pitié. Ça c'est un exaucement. C'est un cri céleste. Papa, pitié. Ça c'est l'exaucement. C'était le vendredi. Le dimanche, au refuge, je présentais ma petite vivante. J'avais eu de ces moments. Je voyais les habits de mon enfant, ses petits habits, qui m'étaient chers quand elle était habillée comme ça. Puis je me disais, elle ne sera plus là-dedans. Parce que on y passe, mes amis. Vous avez pensé aussi que vous pourriez perdre votre enfant. Il y a eu tout un travail en vous. Il y a eu l'angoisse aussi. Puis l'abandon au Seigneur. Mais il y a la délivrance. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur nous fait passer par là? Pour qu'on puisse comprendre les autres. Pour qu'on puisse sympathiser avec les autres, pour qu'on puisse vraiment nous aider les uns les autres. Mais voyez-vous, la prière, elle est transformée dans la vie avec le Seigneur. La pratique des vertus chrétiennes nous amène à une vie de prière entièrement transformée. On ne demande plus pour nous, mais on demande pour les autres. Je demande une chose à l'Éternel. C'est le psaume 27. Je demande une chose. J'ai pas 36 choses à demander. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir le Seigneur et m'enquérir de lui dans son temple. La contemplation du Seigneur. Voilà la seule chose qu'on peut demander. Seigneur, donne-moi d'avoir toujours les yeux sur toi. Et tous les problèmes, eh bien, ont déjà leur solution. Ils ont leur solution en Jésus. Regardez à lui. Et ensuite, dans ma vie, ce que j'ai compris, par exemple, pour la prédication, dans mon ministère, on nous dit, mais quelle méthode est-ce que vous allez employer pour prêcher l'évangile? Hein? Bien, vous savez, quand Paul, à Athènes, a pensé, puisque j'ai des sages, je m'en vais leur parler, là, ça fait. Je m'en vais leur citer les auteurs grecs. Ce qu'il a fait, une prédication, chapitre 17 des Actes, qui est remarquable. Hein. Comment il a commencé, à leur niveau, puis comment il s'est élevé, en leur montrant qu'il avait aussi la connaissance des auteurs grecs, disant, un des vôtres a dit, nous sommes de Sarah, c'est vrai ça. Et puis, c'était plutôt un fiasco dans sa prédication à Athènes. Alors, quand il va à Corinthe, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas voulu savoir autre chose que quoi? Que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Et il savait que cette prédication-là, eh bien, aux yeux du monde, c'est une folie. Présenter un Dieu crucifié, c'est une folie pour les païens. Et aux yeux des Juifs, c'était quoi?
Un scandale.
Eh bien, il dit qu'il n'amoindrira pas le scandale et il n'essayera pas de rendre sage cette folie. Il prêchera Jésus-Christ crucifié. Et évidemment, il n'y a pas de conversion. Une prédication comme ça. Et il est tellement découragé, notre pauvre Paul, qu'il dit, eh bien maintenant, moi je vous quitte, j'irai vers les païens, puisque vous, à Corinthe, dans les synagogues, vous ne voulez rien entendre, j'irai vers les païens. Et dans la nuit où il a dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui dit, Paul, tu vas rester ici, parle et ne te tais point, car moi, j'ai un grand peuple dans cette ville. Et c'est à ce moment-là que Crispus, le chef de la synagogue, se convertit. Alors que Paul est tout au fond du corps. Je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et maintenant, les temps peuvent changer. C'est toujours cette seule prédication que nous voulons apporter. Et puis, ensuite, qu'est-ce que le Seigneur nous a montré? Qu'il nous faut chercher, quand nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle la cure d'âme, parler aux âmes, amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Que ce qui compte pour vous, c'est d'obéir au Seigneur. Vous avez la connaissance de la parole, obéissez. Et le Seigneur vous en donnera davantage. Obéissez déjà au Seigneur dans ce que vous avez compris. Les lumières futures vous seront accordées dans la mesure où vous pratiquez les vertus que vous connaissez déjà. Mettez en pratique ce que vous connaissez déjà et le Seigneur vous en révélera davantage. Et en un final, et bien maintenant, vous allez dire, ben, qu'est-ce que vous faites? Je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière. Je cours où? Vers ce qui est devant. Les yeux fixés sur Jésus. La course est devant. Nous allons avancer. La délivrance, elle est toujours devant. Ne regardez pas en arrière. Oublions les choses qui sont derrière. Même les expériences du passé. On ne va pas vivre de nos expériences. On va vivre de foi en foi. Les expériences sont là pour nous encourager. Mais ce ne sont pas mes expériences que je vais vous prêcher. C'est la parole de Dieu qui m'a permis de faire ces expériences. Et qui vous permettra de faire aussi, dans vos circonstances, les expériences de foi, d'espérance, d'amour, les expériences de force, les expériences de justice, les expériences de prudence, les expériences de la maîtrise de soi. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux qu'un héros, vaut mieux que celui qui prend des villes, et combien cela est vrai. Et celui qui est maître de lui-même, il s'empare des âmes. Et alors, vous pourrez conclure en disant, maintenant j'ai compris que toute chose, pour nous chrétiens, travaille au bien de ceux qui l'aiment. Il n'y a qu'un secret. Aimons le Seigneur. Mettons en pratique ce qu'il nous a révélé. Laissons-le vivre en nous. Et nous saurons ce que c'est que la pratique des vertus chrétiennes. Demain, nous terminerons en vous donnant un programme de pensée, un programme de parole, et un programme d'action pour que vous sachiez ce que vous avez à faire et ce que le Seigneur attend de vous. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir fait sentir un jour que malgré tout ce que nous pouvions connaître du christianisme, du catéchisme, il nous manquait la chose essentielle, Jésus. Un Jésus intérieur. Une connaissance de Jésus qui ne soit pas une information au sujet du Christ, mais une connaissance qui soit une relation, une identification, une union. Et tu nous as fait ces grâces de nous saisir. Et maintenant, nous t'appartenons. Oh, que ce soir, plusieurs puissent dire, Seigneur, je suis à toi. et je sais que tu es à moi. Que ton esprit scelle l'alliance avec nos âmes, la renouvelle pour ceux qui sont déjà à toi. Intensifie nos relations avec toi. Approfondis notre communion dans ton ami. C'est le cri de notre cœur. Et donne-nous maintenant, en envisageant de quitter ces lieux, d'être des hommes et des femmes qui vont simplement te faire confiance et te laisser vivre ta vie dans nos corps mortels, pour que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. C'est le cri de notre cœur. Prends en main la suite de cette réunion. Parle. Fais ton travail dans le silence des cœurs et donne-nous demain d'avoir la journée de ton cœur. La grande journée, la dernière journée où tu vas nous parler avec force, comme autrefois à Jérusalem. Toi qui disais, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Selon ce qu'a dit l'Écriture, que ton esprit puisse se manifester en plénitude, en cette fin du camp, pour la seule gloire du Père, au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Amen.